Bonjour, bonjour. Comaguerre célèbre cette nouvelle année sur Radio Galère avec la mise en service d'une nouvelle table de mixage entièrement opérationnelle depuis ce matin. Et nous saluons donc les progrès techniques de Radio Galère, malgré l'austérité, malgré les difficultés budgétaires propres à toutes les associations. Radio Galère progresse. Et il y a besoin que Radio Galère progresse parce que vous avez besoin de Radio Galère pour essayer de sortir du flot de propagande qui est déversé dans vos oreilles par toutes les radios publiques ou privées, télévisions, etc., et même par une partie des réseaux sociaux, car quand on parle des réseaux sociaux, on n'a rien dit, parce que dans les réseaux sociaux, il y a tout et le contraire, hein, y compris des réseaux qui sont faits pour contre-informer, pour dire des bêtises, pour lancer des faux bruits, etc. Et d'autres qui font au contraire des efforts pour essayer de chercher la vérité. Bon. Donc, ne mettez jamais les réseaux sociaux dans un seul sac. Ça, c'est une présentation médiatique, puisqu'on trouve tout ce qu'on veut si on cherche honnêtement et si on a par ailleurs d'autres systèmes d'information, de recoupement et tout. Si on fait un travail méthodique de recherche de l'information. C'est ce que à Comaguerre, depuis fort longtemps, nous essayons de faire en nous appuyant sur des sources, sur des témoignages, sur des contacts que nous avons avec des spécialistes de tel et tel domaine. Voilà. Bien, ceci dit, quelle était l'information la plus importante de la semaine écoulée ? Non, ce n'était pas l'arrivée à la Maison Blanche de M. Donald Trump. Alors, bien entendu, on en dira un petit mot. Mais le plus important, c'était effectivement le début de la trêve sur le terrain palestinien.
Gaza.
Alors, je dis bien la trêve à Gaza, puisqu'il s'agit effectivement d'une trêve dont le terme a été fixé à 42 jours. On en serait donc au troisième jour aujourd'hui, qui aurait commencé dimanche matin. Et qui, voilà, c'est ce qui est écrit. On verra, et on en reparlera déjà tout de suite, on verra ce qui s'y passe, enfin, ce qui s'y passe réellement et ce qui va s'y passer dans les jours suivants. Ce qui s'y passe réellement, ce qu'on a vu, ça c'est clair, et je le décris très très rapidement, c'est effectivement le premier échange de prisonniers, puisque le second est prévu pour samedi prochain. Ouais. Cet échange de prisonniers, alors ça des échanges non proportionnés, puisque vous savez qu'il y a beaucoup plus de prisonniers dans les prisons israéliennes qu'il y en a dans les prisons de Gaza. Et donc on a d'un côté trois dames qui ont été libérées par le Hamas, hein, qu'on a vues, et qui sont passées, alors je vous décris la scène, ça s'est passé dans Gaza même, c'est-à-dire vous avez deux files d'ambulance dans un sens et une file d'ambulance dans l'autre, et ces dames vont passer d'une ambulance qui les amène du lieu de leur détention, donc à Gaza, entre les mains des Palestiniens. Et puis, elle traverse la rue et l'ambulance part de l'autre côté. Et là, c'est des ambulances. D'ailleurs, tout ça supervisé par la Croix-Rouge internationale et par le Croissant-Rouge. Et donc, elle passe de l'autre côté et elle repart dans l'autre direction. Donc, je pense aussi vite, elle sort de Gaza par n'importe quel des points de sortie de Gaza. Peut-être par Rafah, peu importe. Enfin, voilà. Donc, voilà ces trois personnes. Alors, je dis quand même l'impression. C'est-à-dire, on a affaire à trois femmes, disons d'âge moyen, oui, qui ont l'air en bonne santé, avec de bonnes joues, mmh, des sourires et tout, qui donc vont passer dans la même rue d'une ambulance, qui c'est pas même pas une ambulance, c'est une espèce de taxi, mmh, à un autre, et qui vont s'en aller vers leur destin, c'est-à-dire elles vont retrouver leur famille, leurs amis, et c'est tant mieux pour elles.
Et ils étaient accompagnés par des personnes de Hamas, hein.
Ah oui, bien sûr, oui, le personnel qui faisait la d'abord il y a des civils, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue, ça se passe en plein Gaza, donc il y a du monde dans la rue qui regarde, c'était un événement. Le service de sécurité du Hamas qui a été mis en place, donc c'est plus des combattants, il y a une sorte de police qui a été mise en place pendant la période de la trêve, mais Gaza n'est pas livrée à elle-même, c'est pas l'anarchie dans Gaza, parce qu'il y a la trêve, au contraire, le Hamas a transformé...
Moi j'étais surpris que c'est bien organisé.
Ah voilà. Tout à fait, non, ça a été bien organisé, bien planifié. Il y a donc, je dis, les combattants du Hamas, si c'est les mêmes, ont été transformés en agents de police, puisqu'ils font la police pendant la période de la trêve. Ils assurent la sécurité à l'intérieur de l'enclave. Bon, ça, c'est très important à souligner. Et puis, il y a de l'autre côté la libération de 90 à peu près, palestiniens.
Oui,
alors là, il y a beaucoup moins d'images, parce qu'en fait, ça s'est passé dans différents endroits. C'est C'est-à-dire que ces Palestiniens, d'abord, ils n'étaient pas à Gaza, évidemment. Ils étaient dans différents endroits du territoire israélien, sortant de différentes prisons. Il y en a beaucoup autour de Jérusalem, il y en a autour de Tel Aviv, il y en a dans les colonies autour de la bande de Gaza elle-même. Et donc, on n'a pas vu, moi, je n'ai pas vu, je ne sais pas si tu as vu, toi, Habib, si tu as vu des images, mais en fait, on sait qu'ils sont sortis, hein, mais on n'a pas vu de détails, parce que chaque fois, il y a eu des cas différents. On ne les a pas vus un par un, les 90 ou les 100 sortir, etc. Bon, toujours est-il, ils sont effectivement libérés. Voilà. Ils sont effectivement libérés. Certains étaient emprisonnés depuis beaucoup plus longtemps que les prisonniers du Hamas, que les trois dames là dont je parle tout à l'heure, certains depuis des années. Et je voulais m'arrêter, parce qu'on en parlera un peu, sur un cas d'une personne qui paraît mériter, qui mérite effectivement notre respect et dont on parlera très peu. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Malala Khalida Jarrah.
Ah, ouais.
Alors pourquoi je parle d'elle ? Parce que cette personne a été et est restée, tant qu'elle n'était pas en prison, elle était une des directrices du Front populaire de libération de la Palestine. Donc elle a occupé différentes places dans l'état-major du FPLP et elle a fait toute une série de séjours dans les prisons israéliennes uniquement pour son activité politique. Elle n'a jamais lancé un caillou, elle n'a jamais tiré sur personne, elle a simplement défendu le droit des Palestiniens. Et ça lui valait, à intervalles réguliers, d'aller passer un an, deux ans en prison. Et là, elle était encore en prison une nouvelle fois. C'est une dame qui vient de passer les 60 ans, elle a 62 ans ou 3 ans. Voilà. Bon, elle sort. Madame Khalida Jarrah, j'insiste sur son nom parce que ça veut dire d'une part que dans la liste des prisonniers palestiniens, le Hamas a eu l'intelligence, et il a bien fait de le faire, de dire on ne libère pas que des gens du Hamas. On libère aussi bien des gens du Fatah, on libère les gens du FPLP, on libère les gens de tous les groupes, de tous les combattants palestiniens, de tous les militants palestiniens.
Je voudrais qu'on insiste que ce sont des prisonniers depuis longtemps qui sont dans les prisons israéliennes.
Exactement.
Ils ne sont pas comme les prisonniers.
Non, c'est voilà. Parce qu'elle, elle y a fait, je ne détaille pas sa biographie, mais elle y a fait plusieurs séjours, elle est rentrée, elle est ressortie. Chaque fois qu'elle ressortait, elle reprenait de l'activité après avoir été maltraitée, torturée, comme tout le monde, tous les prisonniers palestiniens. Et elle recommençait, elle ne lâchait jamais, elle recommençait son activité pour le FPLP. Et donc la police israélienne l'a surveillée. Puis au bout de quelques temps où elle avait continué, repris son activité politique, à nouveau, on l'a réattrapée sans motif, c'est-à-dire on ne voulait pas qu'elle s'exprime parce qu'elle avait trop de vigueur, trop d'engagement, etc. Et on ne voulait pas que le FPLP participe à l'activité des Palestiniens. Bon. Donc c'est bien, ça veut dire que tout Palestinien qui est défenseur de la cause de la Palestine et des Palestiniens fait partie de ceux qui sont libérables. Et je veux dire que ce n'était pas gagné, puisque ne serait-ce qu'il y a un mois, le Parlement israélien a voté un texte, alors tenez-vous bien, a voté un texte pour légaliser l'internement administratif à 5 ans. C'est-à-dire que vous pouvez être en garde à vue aujourd'hui en Israël pendant 5 ans. Garde à vue pendant 5 ans.
Alors, sans être jugé.
Voilà, imaginez que vous disiez ça à un démocrate français, il veut dire déjà, nous, 48 heures, c'est bien long, et puis il y a un avocat qui est informé, etc., etc. Non, là, c'est 5 ans. 5 ans sans aucune intervention de quiconque, sans avocat qui va intervenir, sans nouvelles de rien du tout. On sait que, monsieur X ou madame Y disparaît de la circulation et sa famille dit, elle a été enlevée par la police israélienne. Et puis voilà, ou par l'armée selon les cas, ou par les services de renseignement, peu importe. Et donc on peut passer des années. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces personnes pendant les 5 ans où Israël les a à un endroit qui n'est pas connu? Parce qu'on connaît, les Palestiniens connaissent les noms des prisons, les endroits où elles sont, mais on ne sait pas qui y a dedans. Hein. Donc qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'un pays qui pratique la garde à vue pendant 5 ans, sans contrôle judiciaire, sans motif, sans possibilité de rencontrer les prisonniers, est-ce qu'un pays peut s'appeler démocratie? Là, je réponds non, c'est tout, point,
tout.
C'est tout. C'est pas une démocratie.
C'est un patin.
Voilà, et tout. Voilà. Alors, on nous raconte la plus grande démocratie ici. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on a ce genre de système qui fonctionne, on n'est pas une démocratie.
Pas du tout.
Alors, il reste beaucoup à démontrer. Si Israël voulait vraiment être une démocratie, il y aurait beaucoup de choses.
Avec 60 000 morts, je me demande voilà. si c'est.
Mais voilà. Donc, en fait, arrêtons. Là, je voulais insister là-dessus parce qu'arrêtons ces comédies, la grande démocratie, etc. C'est pas sérieux
pas du tout.
C'est une espèce de mensonge qui est entretenu par les sionistes eux-mêmes et qui, hélas, est véhiculé en veux-tu, en voilà, à longueur d'antenne et à longueur d'écran sur tous nos médias. Cette démocratie n'a pas les critères représentatifs d'une vraie démocratie. Et pour appuyer mon propos, et on va commencer tout de suite l'émission avec ça, si Roselyne est opérationnelle, parce que Roselyne, que je salue, est face à la nouvelle table de montage, un peu perplexe, mais je pense qu'elle va s'en sortir très bien. Oui. On va écouter un témoignage. Vous allez écouter, puis je vous dirai de qui il s'agit. Je vous dis tout de suite de qui il s'agit. Il s'agit de M. Oberlin, Christophe, qui est donc un chirurgien traumatologue français connu, qui connaît bien Gaza, puisqu'il y intervient dans sa spécialité médicale depuis des dizaines d'années. Il connaît à peu près tout le monde, tous les hôpitaux de Gaza, il les a parcourus. Et voilà ce que la situation actuelle l'a amené à dire. Écoutez bien. Voilà, il a fait un témoignage qui est tout récent, cette semaine.
Je n'imaginais pas avoir un jour à demander, exiger la libération d'un collègue médecin emprisonné et torturé dans une prison israélienne. On ne me dise pas que je force le trait, que j'exagère. Aujourd'hui, le docteur Hossam Abou Safia, comme des milliers d'autres prisonniers avant lui, est soumis à la torture. Le décor nous a été maintes fois décrit par ceux et celles qui ont réchappé à l'enfer, affamés, pieds et mains entravés sur un lit, un sac puant sur la tête, interdiction de parler aux co-torturés, et puis les interrogatoires, entre guillemets, la chaise, les mains et les pieds attachés en arrière, les coups, les fractures, affamés, manque de sommeil. Des dizaines de Palestiniens sont morts sous la torture au cours de l'année 2024. Je n'imaginais pas que la torture se pratiquait au quotidien dans les sinistres prisons de la Moscovie, de Jérusalem, Ofer, Taïman ou du Negev. Je n'imaginais pas que j'aurais un jour sous les yeux une prescription de torture signée nominativement par un juge de la Cour suprême israélienne à l'encontre d'un prisonnier palestinien. Je n'imaginais pas que mon collègue, le chirurgien orthopédiste, le docteur Adnan El-Borch, périrait sous la torture dans la prison israélienne d'Ofer. Je n'imaginais pas que l'un de mes tout premiers élèves chirurgiens à Gaza, le docteur Sami El-Jazi, couchant sa fille, serait tué par le tir d'un colon israélien. Je n'imaginais pas que j'apprendrais qu'un autre de mes élèves, le docteur Mohamed Abou Malek, avait été torturé en présence d'un médecin israélien chargé d'éviter qu'il ne meure. Je n'imaginais pas que le professeur Omar Salah Ferwana, doyen de la faculté de médecine, serait tué avec toute sa famille. Je n'imaginais pas que les femmes, les enfants, les filles, les gendres de certains de mes amis médecins, Mahmoud, Mohamed, Abdelaziz, Bassem, périraient sous les tirs ou les bombes israéliennes. Je n'imaginais pas que mon ami le docteur Raed me confierait son fils, gravement blessé lors d'un bombardement d'une école des Nations Unies. Je n'imaginais pas opérer avec comme anesthésiste un médecin palestinien dont la femme avait été tuée la semaine précédente. Je n'imaginais pas que je verrais sur les corps les méfaits des armes interdites, obus à sous-munitions dont l'explosion a rendu aveugle un enfant de 8 ans, phosphore, uranium appauvri, obus à fléchettes, balles explosives dans les genoux. Je n'imaginais pas voir des équipes de football d'amputer. Je n'imaginais pas que je verrais un camion-ben rempli à ras-bord de cadavres se frayer un passage en plein jour au milieu des enfants réfugiés à l'hôpital européen de Khan Younis. Je n'imaginais pas que nombre d'hôpitaux où j'ai exercé la chirurgie, Shifa, Nasser, Al-Quds, Croissant-Rouge, Dar es-Salaam et bien d'autres, seraient détruits et leurs cours transformés en charniers. Je n'imaginais pas que l'attaque systématique des hôpitaux de la bande de Gaza pourrait constituer le but de guerre de l'une des armées occidentales les plus puissantes du monde sans que nos exécutifs ne se donnent les moyens de l'en empêcher. Je n'imaginais pas que notre exécutif resterait à ce point inactif. Au cours de l'année 2024, plus de 1000 soignants ont été assassinés à Gaza. Un exécutif qui joue toujours une carte honteuse, le chantage à la reconnaissance d'un État palestinien. Un exécutif qui vient de se réjouir des succès, entre guillemets, de l'année 2024, Notre-Dame de Paris, des Jeux Olympiques qui ont étalé la beauté, entre guillemets, du savoir-faire parisien. On oublia de mentionner une avancée majeure. La France vient de rafler à la Russie la place de deuxième exportateur mondial d'armement. Bonne année à vous et que le diable les emporte.
On reprend son souffle et puis on dit oui, effectivement, que le diable les emporte. C'est tout ce qu'il y a à dire.
Il s'appelle le docteur
Oberlin. Je t'enverrai le texte.
D'accord.
Voilà, c'est une bonne façon de préciser la situation donc sur le terrain au moment où cette trêve commence, pour une durée qui est fixée. On a une durée théorique et puis on va voir ce qui se passe très concrètement. C'est tellement théorique que, par exemple, les outils yéménites ont prévenu en disant « Nous avions pris l'engagement, urbi et orbi, de dire que nous arrêterions de tirer sur les navires à destination d'Israël ou leurs amis pendant tout le temps où Gaza serait bombardé. Nous suspendons donc nos tirs, nos envois de missiles hypersoniques et tout pendant ce temps-là. Mais que les Israéliens et leurs amis soient bien prévenus. Quoi qu'il arrive pendant cette période, si jamais il y a le moindre tir sur Gaza, le moindre incident, nous reprendrons nos activités. Et de toute façon, aucun navire israélien ou transportant du matériel pour Israël ne passera toujours dans la mer Rouge. Bon. Voilà. Alors, voilà ce que c'est que tenir sa parole en politique internationale. Je m'étais engagé, le cessez-le-feu a commencé, je suspends. Bon. Si jamais le cessez-le-feu est violé, je reprends mes activités. C'est tout à fait clair. Et coup de chapeau en passage aux outils qui, effectivement, ont tenu jusqu'au bout et n'ont absolument pas lâché une intervention décisive, puisqu'ils ont continué à tirer des missiles hypersoniques sur Israël jusqu'au dernier jour avant la trêve. Donc il faut le souligner. Alors qu'est-ce que c'est que cette trêve, au-delà de cet aspect matériel, échange de prisonniers, pas de tirs, pas de bombardements? Alors ça permet effectivement, côté palestinien et côté surtout des Gazaouis, de savoir qu'on va manger, parce qu'effectivement les camions de nourriture arrivent. On va boire de l'eau potable, on va peut-être avoir des couvertures neuves. Il est arrivé, non pas des maisons, on ne fait pas des maisons en 45 jours, mais des tentes propres. Des tentes. On pourra dormir à l'abri dans
et
une
non,
tente.
Pas du plastique.
Voilà, à peu près correct. Bon, c'est tout ce qu'il y a, mais déjà, ça vaut cher. Et puis, j'imaginais être dans une tente bien isolée, avec une bonne couverture le soir, et savoir que pendant la nuit, il n'y aura pas des tirs de roquettes et qu'on ne va pas perdre son enfant qui dort à côté de vous. Déjà, quel soulagement! Et on ne peut pas ne pas souligner ce soulagement qui est un moment extrêmement fort, je pense, dans la vie des Gazaouis. Ceci étant, ils savent très bien à qui ils ont affaire et qu'ils ont à profiter au maximum de ce moment rare et pas forcément inattendu, je vais y revenir, mais que ce moment-là est bref de toute façon tel qu'il a été décrit dans les accords signés. Alors ce soulagement, effectivement, est tempéré par une compréhension de la situation. Pourquoi cette trêve a eu lieu? Elle a eu lieu parce qu'effectivement, non pas, alors on va vous raconter la pression de Trump, la pression de Biden, etc. Ça c'est de la comédie médiatique. Oui. Elle a eu lieu parce qu'à un moment donné, le camp impérialiste, le camp néo-fasciste qui soutient Netanyahou, ont décidé qu'il fallait arrêter les frais parce que leur victoire n'était pas au bout du fusil, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Elle est arrivée au moment où la résistance des Gazaouis avait été telle qu'ils n'avaient pas réussi à arrêter la résistance armée palestinienne, au moment où l'invasion du Liban n'était pas un succès puisqu'ils n'arrivaient pas à rentrer au Liban, ils rentraient, ils ressortaient quasiment dans la journée parce qu'ils étaient chassés par le Hezbollah, au moment où les tirs de missiles qui viennent du Hezbollah ou des outils yéménites tombaient tous les jours sur les grandes villes d'Israël, au moment où l'économie israélienne est en crise, au moment où 1 million millions de citoyens israéliens sont déplacés sur le propre territoire d'Israël, puisque à cause précisément des tirs ennemis, au moment où une série de citoyens à double nationalité s'en vont, au moment où des entreprises plient, quittent Gaza et la Palestine, et quittent Israël parce qu'elles ont peur de la suite des événements, bon, Israël était en fait dans une position beaucoup plus faible qu'il ne l'affirmait et qu'on voulait nous le présenter, au moment où même Israël était obligé, et ça fait partie de l'affaire libanaise, je vais y revenir, était obligé de mobiliser une partie de ses troupes qui sont toujours pour occuper une partie du territoire syrien. Israël se trouvait avec un menu qui était trop gros pour ses petites dents, aussi cruelles soient-elles. C'était ça. Hein. Et donc la nécessité d'un cessez-le-feu, c'était de dire « Attention, nos objectifs ne sont pas atteints. On a été extrêmement gourmand, on a voulu le Liban, on n'y est pas, c'est pas ça, ça se passe pas bien. On a voulu la Syrie, on y est, mais du coup on a une partie de notre armée qui est bloquée. Et donc il faut effectivement qu'on revoie la stratégie. Et c'est ça le principal sens de la trêve, c'est-à-dire revoir, non pas à n'importe quel moment, revoir à un moment où il arrive à la tête des États-Unis une nouvelle équipe dirigeante, voir avec eux comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'on va faire, quels objectifs vont être remis. Puisque, au fond, il n'y a pas de victoire sioniste. Non, ils ont beau regarder sur tous les terrains, ils n'ont pas dû. Pays affaibli, crise politique interne, on parle de dissension dans la majorité, le procès contre Netanyahou reprend, etc. Donc, il y a fragilisation du régime sioniste et inquiétude et incertitude sur ses objectifs et ses ambitions. Et évidemment, il n'y avait pas de meilleur moment que le relève de Biden par Trump pour dire « bon, on remet tout sur la table, on réexamine la situation et on va définir une nouvelle stratégie pour les semaines qui viennent », c'est-à-dire 40 jours, c'est rien du tout, hein, c'est un mois et demi, hein, parce qu'on ne sait pas exactement où on va, et puis où on va dépendre largement de la façon dont l'équipe Trump va nous dire il faut faire ceci, il faut faire cela. L'équipe Trump, j'y reviendrai, dont l'hypocrisie est totale, puisqu'il dit il ne veut pas s'occuper de ces conflits en premier, il laisse ça aux gens du terrain, bon, ça ne trompe personne. En fait, la date que j'indique, c'est-à-dire on décide de cesser le feu pratiquement la veille du jour où Trump arrive au pouvoir, c'est bien dire qu'on attend de lui effectivement une redéfinition ou une rediscussion avec eux de la politique, de la future politique sioniste. C'est bon, donc, il faut bien voir ça, et de ce point de vue-là, la direction palestinienne a raison de dire « Nous avons marqué un point considérable.
Ah » oui.
C'est-à-dire qu'au bout de presque un an et demi de bombardements, de massacres, avec tout ce que vous avez entendu dans la bouche de Christophe Oberlin, les objectifs ne sont pas atteints. La résistance n'est pas détruite, on va dire, ni à Gaza.
Netanyahou a juré d'effacer complètement...
il avait dit qu'il n'y aurait plus rien. Voilà, il voulait même qu'il n'y ait plus de Palestiniens à Gaza pour y installer des colons. Hein. Ouais, bon. Ouais. Donc ça, c'est totalement un échec. Donc les Palestiniens ont de quoi se réjouir. Alors, quel qu'ait été le coût humain considérable, les 50 000, on va même au-delà, puisque la revue britannique médicale, le Lancet, a annoncé plus de 100 000, peut-être même 140 000 personnes. On ne sait pas encore quel est le chiffre le plus exact. Et puis c'est pas facile.
Il y en a beaucoup encore
du fait des décombres. Hein. Non, mais voilà une première donnée qu'on ne va pas vous expliquer. Le cessez-le-feu intervient à un moment où Israël, n'ayant pas atteint ses objectifs, essaye de redéfinir avec le nouveau patron, hein, parce qu'on a un comportement donc, de mafia. Il y a un nouveau patron, il y a un nouveau parrain à la tête de la mafia internationale. Et ce nouveau patron, on va voir ce qu'il veut faire, quels moyens il met. Est-ce qu'il veut s'impliquer lui personnellement? Je ne crois pas. Il essayera de tirer les ficelles par derrière comme il sait faire. Hein. Mais de toute façon, on ne pouvait pas aller plus loin, si ce n'est aller à reconnaître un échec terminé. Qu'est-ce que pouvait faire Israël dans les circonstances? Sans argent, sans armes... arrivant à la G-continue des États-Unis, ce n'était pas possible. Non. Si pendant quelques semaines, les Palestiniens de Gaza arrivent à manger et à dormir, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais ça ne veut pas dire que l'avenir est rose par ailleurs.
Non, bon.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Qu'est-ce qu'ils voient, eux? Eux aussi, ils sont en train de redéfinir, effectivement, de revoir la situation. C'est-à-dire qu'on est au point où la première étape de la lutte de libération nationale est victorieuse. Mais la libération nationale, ça se fait en plusieurs étapes. Une première étape victorieuse ne suffit pas. Ne suffit pas, il faut que l'adversaire soit battu. Alors, il peut être battu plus facilement qu'avant, puisque ce que ça a mis aussi en lumière du côté israélien, c'est que les Israéliens, de plus en plus, se divisent entre eux. Ils pensaient partir, comme on dit, la fleur au fusil. En 15 jours, on élimine Hamas et Gaza. Ouais. Et après, on est les maîtres du... Bon, eh bien, ils s'aperçoivent que ce n'est pas vrai. Et d'où ça, hein, ça induit des désaccords à l'intérieur de la société israélienne, des désaccords même entre courants du sionisme. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sionistes qu'ils disent ça. Ils disent on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on y arrive ? Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est toujours une étape dans les luttes de décolonisation. Il y a toujours un moment dans les luttes de décolonisation où le colonisateur voit que ses affaires n'avancent plus et que même il a des difficultés pour maintenir et pour lutter contre les armées de décolonisation. Et il y a un moment où il y a des fractures dans le camp du colonisateur. On l'a vu, alors je reparle souvent de l'exemple de l'Algérie. Quand on en arrive à avoir une partie des Européens, des Français vivant en Algérie, qui se mettent à lutter contre le gouvernement du général de Gaulle, c'est l'OAS, ils essayent même d'assassiner de Gaulle, ça veut dire que dans le camp du colonisateur, on est divisé. Il y a des jusqu'au boutistes qui veulent continuer, et puis il y a, disons, des plus réalistes qui disent « Non, on ne va pas s'en sortir, il faut trouver une issue politique. Bon. » Ben, on en est exactement à ce moment-là en Israël. Et ce moment-là, il a été possible parce que la résistance palestinienne a tenu le coup, a marqué des points. À un prix énorme, humainement. Elle a marqué des points. Donc je dis, on est, cette trêve, c'est le point, l'étape numéro un de la lutte de décolonisation qui a commencé le 7 octobre 2023. Ce qui ne veut pas dire que les Palestiniens avant n'ont rien fait. Ils ont réagi contre la Nakba, ils ont réagi contre des tas d'événements. Gaza a été attaqué 3 ou 4 fois depuis que le Hamas après a été élu à la tête de Gaza, etc. Bon, mais c'était défensif. Là, c'était la première action offensive et c'était effectivement le premier pas de la lutte de libération nationale. Et bien, cette lutte, maintenant, elle est commencée. Elle ne s'arrêtera pas. Hein, et donc, on va rentrer dans 40 jours, ou peut-être un peu avant, si les Israéliens trichent, on va rentrer dans la deuxième lutte de libération nationale. Et à ce moment-là, effectivement, le camp colonisateur, le camp du parrain Trump, aura fixé sa position, auquel Israël adhérera certainement. Et puis, du côté de la résistance palestinienne et de ses amis, je pense qu'on aura pris le temps aussi de faire le point de la situation des amis, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout. Alors, ses amis, on les connaît, les Houthis, et puis on sait que le Hezbollah est toujours là.
Oui. Je sais que le Hezbollah... C'est pas fini.
Voilà. Et à telle enseigne que je vais en parler, qu'un élu, puisqu'il y a des députés du Hezbollah au Parlement à Beyrouth, il a pris la parole pour dire qu'effectivement, le Hezbollah n'avait pas disparu et qu'il a même précisé qu'Israël continuait à faire des tirs, à détruire des maisons, dans le sud du Liban, alors que, soi-disant, il y a eu une trêve. Ça, c'est pas vrai. Donc, on juge, et c'était une bonne occasion, parce qu'il disait, voyez, on dit qu'il y a une trêve, qu'Israël arrête, et vous voyez que même ils ont décidé la trêve, on n'arrête plus, et quand même, c'est pas vrai.
La trêve a été bien respectée par le Hezbollah. Alors que, bon, soi-disant, on a nommé un général américain pour qu'on respecte.
Donc, ça, c'est très important de le voir. Donc, les Palestiniens, la résistance, doit faire le point de la situation. Où en est le Hezbollah ? Il est là. Alors, le Hezbollah tient compte de la nouvelle situation politique au Liban, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau président qui s'appelle Joseph Aoun, ancien chef d'état-major de l'armée. C'est-à-dire qu'on a dit à cette partie de la population libanaise, je veux dire la partie chrétienne, de faire en sorte que l'armée libanaise, la vraie armée libanaise, prenne sa place dans la défense du pays. Bon, alors c'est très gentil. Personne ne souhaite du mal à l'armée libanaise. Toujours est-il que l'armée libanaise est dans l'incapacité aujourd'hui de mener la lutte contre les Israéliens et que s'il n'y avait pas le Hezbollah, tout citoyen libanais honnête, même s'il n'est pas du tout d'accord avec le Hezbollah, ne peut ne pas reconnaître que
la démonstration a été faite sur le terrain.
Bien sûr. Sans le Hezbollah, Israël aurait mangé la moitié du Liban depuis longtemps. Bon. Et ça, tous les Libanais honnêtes le savent. Ils ne portent pas le Hezbollah dans leur cœur, même s'ils aimeraient mieux qu'il y ait une armée libanaise qui soit de taille à résister, bien sûr. Mais ça ne se fait pas comme ça. L'armée donc officieuse du Hezbollah, elle a mis des décennies à être construite et à s'entraîner, à tenir le terrain.
Plus de 30 ans.
Et donc, on ne va pas fabriquer, parce que M. Trump ou M. Biden ont décidé qu'il y aurait désormais une armée libanaise, ça ne va pas fonctionner demain matin. Hein. Et donc la réalité militaire, elle est encore largement entre les mains du Hezbollah, qui a simplement l'intelligence de dire, ben, on reconnaît qu'il y a une nouvelle donne, il y a eu une trêve, on reconnaît qu'il y a un nouveau président, il va y avoir un nouveau premier ministre et tout. On ne fait pas de, on n'est pas une dissidence sociale générale, mais on insiste sur le fait qu'on est là et qu'on est prêt à continuer la bataille et qu'on le fera la main dans la main avec la future armée libanaise qu'on attend. On peut l'attendre.
De toute façon, certains Libanais amis de la France a voulu que la France arme
bien
cette
sûr.
Armée, mais malheureusement,
bien
non,
sûr.
Rien n'a été fait.
Voilà. Alors c'est quand même parce que si l'armée, la France est devenue le deuxième vendeur d'armement, c'est qu'aussi qu'elle en vend ici et là dans des circonstances pareilles. Mais c'est d'ailleurs pour ça, alors vous savez, je ne l'ai pas dit parce qu'à la limite... C'est sans importance que M. Ouais. Macron s'est fendu d'une visite à Beyrouth la fin de la semaine dernière. C'était pour saluer ce nouveau gouvernement et pour dire vive la nouvelle armée de libération de Liban. Bon, il peut toujours le dire.
Vrai,
hein, il peut toujours le dire. Ça ne
c'est
trompe.
Rigolo, quoi.
Oui, c'est... oui, c'est encore de moins en moins drôle, j'allais dire.
Hein, oui, oui. Hein,
mais il a cru s'en rendre intéressant. Et je pense, d'après les échos que j'ai vus dans la presse libanaise, sa visite a été passée comme sans importance. Il y a eu des interviews genre Radio Trottoir et tout. Pff, qu'est-ce qu'il vient faire encore? Il nous avait... Souvenez-vous, quand il est venu la dernière fois, c'était au moment de l'explosion du hangar avec le nitrate d'ammonium à Beyrouth. Il avait promis monts et merveilles et puis il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'au Liban, même chez des gens qui n'aiment pas le Hezbollah, même chez des gens qui sont assez favorables à Israël, on ne veut pas méchant avec Israël, on ne prend pas M. Macron au sérieux, c'est fini. Mais... qui prend encore M. Macron au sérieux? On se demande. Bon, c'est pas ça le but de l'émission. Donc voilà, le point sur la résistance, c'est que le Hezbollah est toujours là. Il s'est adapté à la nouvelle circonstance. Les Houthis sont toujours là. Le Hamas est toujours là. La preuve, c'est que c'est lui qui organise les transferts de prisonniers, on l'a vu, et magistralement. Et puis, il reste la question de l'Iran. Il reste la question de l'Iran, puisqu'on disait que, alors il y avait sa fameuse idée de l'arc chiite, c'est-à-dire qu'on disait tous les mouvements de résistance et de soutien à la cause palestinienne sont soutenus par les chiites. Alors effectivement, les Houthis sont majoritairement chiites, le Hezbollah libanais est majoritairement chiite, et donc on se disait c'est chiite. Et en fait, on disait si c'est chiite, dès l'instant où les Iraniens les aident plus, ils sont incapables de rien faire. Et ça, c'est pas vrai. C'est ne pas comprendre ce que c'est qu'un mouvement de résistance populaire armée. Un mouvement de résistance populaire armée, il a des amis, il peut avoir des soutiens qui lui enlèvent, qui lui envoient dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, de l'armement, de l'argent, etc. Mais si lui n'a pas la capacité de se battre et un enracinement extraordinairement fort sur son terrain, dans son pays, la lutte de libération n'aboutit pas. Alors qu'est-ce qui va se passer côté Iran? Ben, le côté Iran est en train de se réorganiser dans cette nouvelle situation, c'est-à-dire il s'est moins facile, par exemple, d'envoyer des armes au Hezbollah qui passaient par la Syrie jusqu'à il y a quelques semaines, mais au fond, ce qui s'est passé la semaine dernière, dont on a peu parlé, alors que c'était important, c'est la visite du président iranien à Moscou, où il a été reçu par le président à l'occasion de la signature d'un traité d'assistance stratégique commune. C'est-à-dire, on a un projet commun qui n'est pas très différent de celui des Chinois d'ailleurs, mais on se soutient l'un l'autre. Alors, ce n'est pas encore un projet militaire, pour être très très précis, puisqu'il n'y a pas d'alliance militaire. Ne pas confondre les rapports entre l'Iran et la Russie avec ceux de la Russie avec la Corée du Nord. Dans le cas de la Corée du Nord, on a vraiment un accord militaire de défense commune. L'un est attaqué, l'autre on le défend. Là, on n'en est pas encore là au niveau de l'Iran. D'une part parce que l'Iran est sur place et que l'Iran a des capacités de défense très très importantes. Ils viennent encore de montrer des souterrains où une partie de leur flotte, petite flotte de petits bateaux extrêmement nocifs pour les marines adverses, est en construction et même opérationnelle. Ils ont des grosses capacités en matière de missiles hypersoniques, de balistiques en général. Donc ils savent très bien quels sont leurs moyens aujourd'hui. Simplement, il est dit, je vais vous lire la phrase... qui dit très exactement dans le communiqué commun, l'Iran et la Russie s'engagent à se positionner, à ne participer en aucune manière à des processus qui aident les agresseurs. C'est-à-dire que si l'Iran est attaqué, on imagine par qui, hein, par Israël, puisqu'il y a longtemps qu'ils ont envie de le faire, hein, la Russie s'engage à ne pas faciliter le travail d'Israël. Ça veut dire ne pas faciliter, ça veut dire attention à ce que vous faites et peut-être on va se fâcher ou prendre des mesures de rétorsion par ailleurs. Ça ne veut pas dire que la Russie envoie des soldats sur le sol iranien. Et d'ailleurs, je pense que les Iraniens n'accepteraient pas.
Non, hein, c'est
hein. Mais c'est ça que ça veut dire. Donc on n'en est pas encore au niveau d'un pacte militaire, mais on est au niveau d'un pacte de travail en commun, stratégique, et puis un pacte qui met en jeu beaucoup d'influence économique en particulier, ouais. Tout ce qui est dans les transports. C'est-à-dire qu'il faut que la circulation des marchandises, en particulier le pétrole et le gaz, entre la Russie et l'Iran, soit facilitée. Alors ce sont deux gros producteurs de gaz. Les réserves de gaz de l'Iran sont très largement inexploitées.
Par la mer Caspienne, non ?
Alors à travers, ça va plus loin que ça, puisque les accords qui sont en cours disent que ça va passer à travers l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui se prête tout à fait à ce jeu-là et qui dit en fait, regardez la carte, c'est le pays qui est entre les deux d'une façon terrestre. Alors ça pouvait se faire par la mer Caspienne puisqu'ils sont riverains, mais c'est encore plus facile si on veut tracer un gazoduc ou une voie ferrée, et c'est ce qui est en train de se décider. C'est-à-dire qu'on pourra désormais partir d'un port donc, du sud du Liban, je pense à Bandar Abbas ou à Chebab, sur carrément le golfe d'Aden et sur la mer d'Arabie, et monter par le train jusqu'en Russie, en passant par l'Azerbaïdjan. Et c'est ça qui se met en place, c'est-à-dire des communications faciles, des liens, et ça permet en particulier de tourner des difficultés qui sont les difficultés d'embargo sur les produits iraniens. C'est-à-dire que si dans le tuyau qui sort sur un port du sud de l'Iran, vous mettez du gaz russe, ben c'est du gaz russe, c'est pas du gaz iranien, donc les sanctions contre l'Iran ne s'appliquent pas. Il y a tout ça qui se prépare, et donc c'est une résistance donc à la politique sioniste israélienne importante qui se met en place de façon très très concrète entre deux pays qui se parlent, qui se connaissent de mieux en mieux et qui savent qu'ils ont des intérêts communs, sans en même temps, alors c'est des régimes très très différents hein, par ailleurs, ils savent qu'ils ont des intérêts géopolitiques communs et ils travaillent de plus en plus la main dans la main.
Et finalement, la Turquie, elle va en bénéficier de ces...
Oui,
Il y aura un peu plus...
Aussi. Ouais. Voilà donc ce qui se passe sur le terrain. Donc pendant cette trêve et à l'occasion de cette trêve, tout se remet en place pour que dans 40 jours, touchons du bois pour que les Israéliens ne fassent pas de bêtises d'ici là, on ait affaire à une situation très très différente de celle que nous connaissions avant la trêve. Tout se met en place pour la suite des événements. Bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Je pense à M. Mahmoud Abbas, qui a fait des félicitations au président Trump, mais qui en fait plus personne ne prend au sérieux. Et puis les dernières interventions de la police politique de l'organisation de l'autorité palestinienne sont très très inquiétantes, c'est-à-dire que c'est des interventions qui conduisent à mettre en prison, voire à tuer tous les militants palestiniens de la Cisjordanie qui essayent d'être autonomes. C'est-à-dire que le rôle de traître de l'autorité palestinienne qui avait été voulu par les accords d'Oslo, est maintenant visible, patent, insupportable même. Et donc, il est temps que cette autorité palestinienne saute, parce qu'elle va servir, si elle ne saute pas, elle va servir de cheval de Troie dans la résistance palestinienne. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les États-Unis vont dire « Ah ben, on va confier ce dossier à l'autorité palestinienne ». Il n'y aurait rien de pire de possible, mais je pense que les autres Palestiniens que ceux de l'autorité palestinienne le savent.
Vous savez que Netanyahou a fait un feu d'artifice pour Trump.
Voilà. Alors, puisque tu me tends la perche, là, je vais vous raconter ce que M. Netanyahou... Alors, M. Netanyahou, puisqu'on fait la transition comme ça avec la cérémonie d'investiture hier à Washington, M. Netanyahou ne faisait pas partie des invités. Bon, donc c'était une façon de dire, oui, tu es notre ami, mais on le sait que c'est leur ami, mais tu as beaucoup travaillé avec Biden, donc on va revoir ta copie, voir si on fait des grands sourires ou si on revoit un peu la question avec toi. Et lui, il a anticipé ça en disant que il a salué, écoutez bien, il a par ailleurs salué les moments révolutionnaires, alors je mets révolutionnaires avec d'énormes guillemets qui traversent. Je traverse les ordres, qui ont marqué, selon le Premier ministre, le mandat de Donald Trump. Écoutez bien, vous vous êtes retiré du dangereux accord sur le nucléaire iranien. Vous savez, le fameux accord qui disait que l'Iran pouvait reprendre son activité nucléaire à condition de ceci, etc. Se soumettre à... Vous connaissez ça. Vous avez reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ça, c'est Trump numéro un. Vous avez déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem. Trump numéro un. Vous avez reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Trump numéro un. Vous avez négocié les accords historiques d'Abraham par lesquels Israël a fait la paix avec d'autres pays arabes, quatre en l'occurrence. Et il s'est dit confiant que leur alliance serait la défaite du terrorisme iranien. Voilà. Voilà, donc, vous dites, et c'est tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est-à-dire, Netanyahou dit, jamais aucun président des États-Unis est allé aussi loin que Trump dans le soutien à la cause sioniste. Hein, il étale donc tous les bienfaits de Trump numéro un.
Oui, mais Biden a fait mieux. Hein.
Oui, alors, Biden a continué.
Hein. Il a dit, je suis plus sioniste que les
voilà. Et voilà. Et donc, on en est là. Donc, il y a peut-être un problème sur l'avenir individuel de Benjamin Netanyahu, mais ça n'a aucune importance. Hein. C'est le nouveau parrain de la mafia sioniste, enfin la mafia internationale, qui s'appelle Donald Trump, qui décidera. Hein, c'est tout. Alors il décidera dans des termes qu'on peut commencer à comprendre d'après ses positions d'hier, sur lesquels je vais un petit peu m'attarder. Sur le Liban, je crois que j'ai tout dit. Sur la Syrie, rien de bien nouveau, puisque le désordre syrien va continuer au détriment de la santé des Syriens. Et surtout, ce désordre syrien est organisé par des non-Syriens. Ouais. Alors, quand même un élément qui m'a surpris, dans l'article que je t'ai transmis, là, qui est rédigé par un Britannique, qui est, je pense, un proche des services de renseignement de le roi. Donc, ce monsieur dit qu'il y aurait sur le sol aujourd'hui de la Syrie, dans les rangs de M. Al-Shahra, il y aurait 200 000 Ouïghours.
Oui.
200 000 Ouïghours. Ça, alors, ce qui veut dire, alors, les Ouïghours qui ne connaissent rien ni à l'islam, ni au schisme, ni à rien du tout, et ni à la Syrie encore bien, où ils n'ont jamais mis les pieds, mais qui seraient apparemment la force de frappe, et à qui on aurait même donné, au passage, une carte d'identité syrienne pour faire jeu.
Une naturalisation syrienne, voilà. Il a dit, ça fait plus de 5 ans qu'ils sont en Syrie.
Voilà, ils étaient en formation à Idleb, et donc ils sont là. Bon, voilà. Ça, c'est des interventions qui méritent d'être données. Donc, la situation syrienne reste d'une complexité et d'une cruauté bien au-delà de la moyenne, mais sur laquelle elle est encore extrêmement volatile, puisque les Turcs continuent à tirer sur les Kurdes. Les Kurdes sont quand même toujours soutenus par les États-Unis. Israël est là, bien encastré.
Elle
dans
profite.
Cette... Voilà. Et puis les djihadistes, les coupeurs de tête, sont là, une espèce de gouvernement qui est plus ou moins reconnu. Tout le monde va les voir. Alors, il y a eu les ministres français et allemands, maintenant les espagnols, tout le monde vient voir.
Ce que j'ai appris, c'est que c'est catastrophique actuellement. Voilà. C'est pas encore au point, il n'y a rien de fait.
Non, ça ne fonctionne pas.
Ce sont des extrémistes qui sont là au pouvoir.
Voilà. Et en plus, alors, quelle est leur capacité de gouverner? C'est-à-dire, qui obéit à M. Al-Shahra? Ça, on ne sait pas. Il y en a qui doivent obéir beaucoup, d'autres beaucoup moins, d'autres se servir, d'autres piller, d'autres voler. Enfin, tout est possible.
Tout est possible. On a beaucoup d'exemples. Hein. Ouais. Et ils rentrent dans les maisons, ils pillent ce qu'ils veulent, ils frappent les gens, ils tirent deux fois à bout portant. Enfin, bon.
Roselyne, tu veux?
Oui. Vous m'entendez?
Oui, tout à fait.
J'ai juste en tête une photo de monsieur Al-Shahar et de madame.
Ah oui, oui. Ah ben bien sûr.
Celle-ci étant... on dirait qu'elle a une armure de la tête aux pieds.
Ah oui, on voit que les yeux. Oui, ça y est. Oui. C'est clair.
Ben, il a nommé un ministre de la, je crois, de la justice, oui.
Oui.
Qui applique le charia.
Oui, tout à fait. Donc non, c'est tout à fait clair. Ils sont afghanisés, j'allais dire, jusqu'au bout. Et donc il y a, et je le fais puisque tu me tends la perche, c'est-à-dire il y a des gens qui opposent cette image qui est très douloureuse à voir, hein, à l'image de Asma ben Assad, qui à Pékin, c'était il n'y a pas si longtemps, à 2 ans, faisait une conférence à tous les étudiants arabes qui étudient à Pékin, ouais. Et elle leur faisait un discours sur la culture arabe, la langue arabe et tout, qui était d'une autre tenue que... Ah ben, même cette dame ne parlera pas. C'est ça, elle est interdite de parole. Elle figure juste sur la photo avec juste ses deux
mais
yeux.
Mais moi, je dis quelle honte pour l'Allemagne de présenter son ministre des Affaires étrangères,
mais oui.
Et que l'autre, il n'a pas voulu serrer la main.
Non, non.
C'est une honte.
Yes.
C'est une honte même pour l'Occident, je dis.
Alors, et qu'elle même, parce que Mme Annalena Baerbock s'était signalée comme étant une des plus extrémistes des Verts allemands, anti-russes, etc. Mais là, elle a pris une paire de claques magistrales. Oui. Bon, ça fait rien, tout le monde se précipite. Maintenant, c'est les Espagnols, les Italiens, tout le monde va serrer la main à monsieur le coupeur de tête. Bon, c'est, tout ceci
Il fait partie de l'Al-Qaïda. Hein.
Mais bien, exactement.
C'était sous fifre de Bin Laden.
Tout à fait. Un mot sur l'Afghanistan, d'ailleurs, parce que les relations avec le Pakistan voisin se compliquent, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le Pakistan, qui après avoir rendu énormément de services aux talibans du temps de la guerre menée par les États-Unis, puisque les États-Unis aidaient les talibans, maintenant sont en train de se rendre compte qu'ils sont difficiles à vivre, compliqués, qu'ils ne sortent pas leur pays de l'ornière économique, sociale dans laquelle il est, et que donc il y a une espèce de rupture qui est en train de se faire, y compris avec des échanges de tirs, enfin ça c'est très très tendu, les rapports entre l'Afghanistan et le Pakistan sont mauvais maintenant.
Ouais.
C'est une affaire à suivre pour la suite des événements. Mais revenons donc à la cérémonie, enfin à l'investiture de M. Donald. Alors, c'était pas de surprise. Alors, ce discours... Voilà, donc, commençons par les invités. Les invités, parce que là, c'est très, très intéressant au niveau des invités. Il y avait des gens qui ne l'étaient pas. Alors, bon, apparemment, Netanyahou, ça ne lui a pas fait grand-chose, puisqu'il a dit que, de toute façon, c'était lui le patron.
Il était occupé,
oui. Zelensky, alors, puisqu'il était occupé, Zelensky aussi alors, a fait des pieds et des mains pour être invité. Il n'a pas été invité. Alors là, il était un peu meurtri, et il a dit qu'il était très, très pris. Alors, il y a des bons esprits qui comptent le nombre de fois où M. Zelensky a quitté Kiev pour aller faire sa comédie dans différents parlements, sur différentes enceintes internationales. Il était presque tout le temps parti. C'était ça, sa tâche principale. Alors là, l'excuse de dire « je suis pris », bon, vaut pas grand-chose. Bon, pour mémoire. Était invité. Alors, on est en train de voir, là on a vu avant-hier donc sur nos écrans, la constitution officielle de l'international fasciste dirigée par Donald Trump, le nouveau parrain, avec Madame Meloni, Premier ministre d'extrême droite italien, M. Milei, l'extrémiste de droite en Argentine, M. Bukele, je cite son nom parce que c'est cruel en même temps. Monsieur Bukele, vous savez, c'est le dictateur du San Salvador qui met tout le monde en prison pour mettre de l'ordre. Alors c'est vrai qu'il y avait du désordre au San Salvador, mais là, il est passé carrément tout le monde en prison, au moindre soupçon, même sans soupçon, on vous ramasse dans la rue. On est quasiment au régime des gardes à vue à la sioniste. Ouais, pareil. Bon. Monsieur Bukele, alors, la douleur, c'est pas une douleur. Quand on sait que M. Bukele est d'origine palestinienne, ça vous fait quelque chose. Bon. Mais après tout, la Palestine, c'est un pays où il y a des tas de gens. Il y a des bourgeois intégrés, il y a des militants de gauche, il y a des gens sincères. Bon, pourquoi là, il n'y aurait que des saints en Palestine ? Il ne faut pas non plus rêver à ça. Il y a aussi Mahmoud Abbas dans les Palestiniens. Bon, donc, il ne faut pas dire que tu es palestinien, donc tu es propre sur toi. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire nulle part dans le monde. Après, il y a des différences de classe, de culture, etc. qui jouent. Bon. Il y avait donc M. Milei. M. Orban avait été invité, mais il n'est pas venu. Et puis, il y avait des délégués des délégués qui ne représentaient qu'eux-mêmes. C'est-à-dire la compagne et la directrice du mouvement de M. Zemmour.
Voilà, j'allais vous le dire, Zemmour.
C'était pas... Alors, Macron n'a pas été invité. Il y avait l'ambassadeur de France par politesse, pas plus. Mais c'était la compagne de M. Zemmour, qui est une énarque, qui est en train de prendre le parti de M. Zemmour.
Et Marine aussi, elle était invitée.
Marine n'était pas invitée. C'était sa nièce qui était invitée.
Ah ben oui, c'était ça. Oui, c'est vrai.
Voilà. Ouais. Et donc, en fait, et c'était comme ça pour d'autres pays. C'est-à-dire qu'on avait effectivement, dans cette assemblée réduite, puisque la séance s'est tenue à l'intérieur d'une salle du Capitole, parce qu'il faisait moins 7 ou moins 8 dehors, donc c'était normal qu'ils se mettent au chaud, hein, on avait donc le gratin. Enfin, encore que le terme me choque un peu.
Le
gratin du néo-fascisme.
Ouais.
Il manquait que Zelensky, effectivement. Mais autrement, il y avait tous les gens les plus dangereux pour les libertés publiques, pour la liberté de conscience, la liberté d'opinion qui existent en ce moment sur la Terre. Il n'y avait pas, je ne crois pas avoir vu d'Africains. J'ai pas vu toute la, j'ai pas dépluché la liste. La seule personne de couleur, j'allais dire, puis c'est quand même un critère qui existe, ça a été un évangéliste qui est venu faire un discours extrêmement agité, entrecoupé de chansons très très violentes, dans le meeting d'introduction de Donald Trump. Bon. Et donc là, on a eu. Voilà. Mais résumé, donc ça, c'est les participants. Donc,
ouais, enfin,
c'est,
oui.
On a là le réceptacle, la constitution du gouvernement de l'international néo-fasciste entre les mains de Donald Trump. Ils sont là, il les a sélectionnés. Il y avait la présidente du parti d'extrême droite allemand, l'AFD, qui a été soutenue par M. Elon Musk lui-même, etc. Bon, tout y est, les éléments sont là. Donc, pour qui veut raisonnablement lutter contre cette forme de néo-fascisme, on a tous les participants, tous les protagonistes, vous avez la liste, ils sont là. Sauf quelques-uns qui ont oublié de venir, ou sauf Zelensky, qui arrive trop tard, parce que comme il a tout perdu, enfin presque, on en reparlera une autre fois, on ne compte plus, il ne pèse plus. Ça veut dire d'ailleurs que pour Donald Trump, la guerre, cette guerre ne l'intéresse pas, cette guerre-là, et il dit qu'il ne s'intéressera pas à des guerres faites ailleurs. Hein. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça renvoie à notre ineffable Emmanuel National. Évidemment, si les États-Unis ne veulent plus faire la guerre en Ukraine, qui on va envoyer? Eh bien les Français, bien entendu, les imbéciles de Français, les imbéciles d'Italiens, les imbéciles d'Allemands, hein, même si, alors le budget de la France ne permet peut-être pas ceci ou cela, mais enfin, Macron est toujours prêt à envoyer des soldats quelque part, même s'il doit serrer sur d'autres budgets, ça on en parlera sur des chroniques plus spécialement locales. Bon. Ensuite, ça c'est les participants. Mais ça veut dire, ça a du poids, c'est-à-dire la période qui s'ouvre, elle s'ouvre sur ce schéma-là. L'extrême droite mondiale est rassemblée derrière le nouveau patron. Bon. Et il a fait en pleine connaissance de cause. C'est assez étonnant qu'une obscure députée européenne, la compagne de M. Zemmour, ou donc Marion Maréchal Le Pen, se retrouve à Washington,
Bon,
alors que la France n'y est pas. Hein. Bon, mais ça veut dire que c'est ces Français-là qui m'intéressent. Les autres, je n'intéresse pas à eux. Je ne veux pas en entendre parler. Hein. Bon, c'est donc parfaitement clair pour la suite des événements.
Ouais.
Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a dit, vous savez, on dit souvent, à quoi vous pensez quand vous êtes devant votre glace le matin en vous rasant, hein. Alors, qu'est-ce qu'il doit penser quand il est le matin devant sa glace, quand il se rase, de dire, je suis le meilleur. Hein. Il doit se dire ça. Et ça m'a fait penser à une réflexion de Nicolas Sarkozy dans le film qui sort sur lui, là, qui s'appelle « Personne n'y comprend rien », où on le voit répondre à une question d'un journaliste. Alors, le journaliste lui pose la question crûment, comme vient de le faire, « À quoi vous pensez le matin en vous rasant? Est-ce que vous pensez à la présidence de la République ?» Alors, il a un petit sourire, il dit oui, mais pas que le matin en me rasant. Ça veut dire, je ne pense qu'à ça toute la journée. Hein, c'était avant 2007. C'était ça. Bon. Et donc, le discours est, nous sommes les meilleurs. Nous entrons, à l'instant où je vous parle, il est 18h30 à Washington, 20 janvier 2025. Nous entrons dans l'ère. De, comment il appelle ça, l'âge d'or de
oui,
l'Amérique.
Oui, oui.
Hein. Alors, c'est parce que je le dis. Je dis qu'à partir de maintenant, à la seconde où ça sort de ma bouche, l'âge d'or commence. On dit, qu'est-ce que c'est? C'est pas sérieux. Ben, c'est un discours de marketing. Je vends la meilleure Kaamelott, hein, au meilleur prix. Personne ne me refuse. Je rachète tous mes concurrents. Ben, c'est ça aussi. Et j'écrase le marché, donc je suis le meilleur en tout. Alors, et il dit, nous allons être prospères, développés, et on ne fera plus de distinction entre les races, les couleurs, etc. Tout le monde est bon. Etc. Oui, mais on va voir. Et dans le même temps où il dit ça, plus de distinction. Et il dit, non, pas de différence de couleur. Le soir même, il sort d'un écrit, donc ça s'appelle un executive order, disant que la frontière avec le Mexique est fermée. Ah ! Alors qu'est-ce que c'est les gens qui sont de l'autre côté ? Ah, ils ne sont pas comme nous, parce que c'est quand même des latinos, hein, qu'ils soient mexicains ou guatémaltèques ou honduriens, etc. Le jour même, il dit, la frontière est fermée. Ouais. Alors, c'est assez facile à dire. Là, on est dans le personnage Trump. C'est un camelot qui dit voilà ma marchandise, c'est la meilleure, personne ne me fait concurrence et tout. C'est pas vrai, parce que dans la Constitution des États-Unis, une directive fédérale, donc touchant l'ensemble du pays, n'est pas forcément appliquée ou respectée par les États. Alors les États peuvent dire, il y a ça, cette règle fédérale sous forme de ce décret présidentiel. Et en fait, si on ne l'applique pas, ou si on fait les ânes, en faisant comme si on ne l'avait pas vu passer, il ne se passera rien. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral est dans l'incapacité de sanctionner un État qui n'applique pas sa politique. C'est-à-dire, alors, c'est pas ce qui se passera au Texas. Mais si, par exemple, la Californie décide de ne pas respecter les mesures Trump et de ne pas fermer la frontière, il ne se passera rien. Trump n'enverra pas l'armée faire tomber le gouvernement de la Californie. Donc, hein, parce qu'il faut voir l'ampleur des ambitions. Quand il s'agit d'expulser aujourd'hui tous les sans-papiers qui seraient sur le territoire des États-Unis, ben c'est ça aussi, on ferme et puis on rejette de l'autre côté tous ceux qui sont sans-papiers. Il y a aujourd'hui les chiffres qui circulent, que j'ai vus dans différents coins, qui sont, je pense, fiables, il y a aujourd'hui 11 millions de sans-papiers sur le territoire des États-Unis. Bon. Alors, mettre 11 millions de personnes à la porte, même si on est très expéditif et manu militari, ça ne va pas se faire facilement. D'abord, ils vont se méfier, ils vont se cacher, ils ont sûrement des complices ici et là, ça ne va pas être très très facile, puis il y aura des fabriques de faux papiers, enfin, on connaît tout ça. Ouais. Ce qu'il y a dans l'autre sens, et c'est là où le discours de Trump s'arrête en route, c'est-à-dire c'est tout dans la façade, tout dans l'affirmation de satisfaction de soi, c'est que ce qui se passe aussi à travers cette frontière, c'est des gens qui viennent chercher du travail, parce qu'il y a pas chez eux, ça c'est vrai. Mais ce qui se passe aussi, c'est le trafic de drogue. C'est-à-dire que la drogue qui est consommée aux États-Unis, à part les gens qui se font un petit champ de hashish dans leur campagne, c'est la drogue qui vient d'Amérique latine. Et elle est aux mains de bandes extrêmement redoutables qui passent la frontière comme ils veulent et qui éliminent au passage si on les empêche de passer.
Bon. Tout ce qui veut.
Qu'est-ce qui va se passer ? Ben c'est très très évident. Réfléchissez à l'état des technologies dépendantes. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir un monsieur qui passe avec dans son sac à dos, bien enveloppé, des quantités de cocaïne. On peut mettre 10, 15 kilos de cocaïne dans un sac à dos. Non, c'est pas ça. Maintenant, il y a des drones qui font ça très très bien. C'est-à-dire que vous allez avoir, la frontière va être fermée, et on va dire, cocorico, la frontière est fermée. Et la cocaïne va arriver par le ciel, ou par des avions pirates, etc. Il y en aura autant. Pourquoi il y en aura autant ? Pas parce que les gens sont méchants, c'est parce que simplement, les drogués sont aux États-Unis. C'est tout. Les clients sont là. Or, là, j'ai remarqué, dans la demi-heure de discours de Trump, évidemment, il ne pouvait pas dire, hein. Tout va bien aux États-Unis. Il n'y a pas de drogués. Le système de santé va bien, etc. Tout va bien aux États-Unis. Et c'est là que son discours tombe complètement à côté. C'est-à-dire, j'affirme que je suis la civilisation la plus avancée de la planète, comme on n'a jamais vu. J'affirme que c'est l'âge d'or. Et puis, je ne regarde pas ce qui se passe. Je ne regarde pas la situation dans les hôpitaux. Je ne regarde pas la consommation de drogue. Je ne regarde pas tout ça.
Ça lui rapporte.
Voilà, alors, ça ne lui rapporte pas à lui, et ça nous amène à évoquer ce qu'on fera la semaine prochaine, le rapport d'Oxfam. Oxfam, vous savez, c'est ce centre de pensée britannique d'origine qui fait tous les ans un rapport sur les inégalités. Et qu'est-ce qu'il constate ? C'est que 2024 a été une année florissante pour les milliardaires ou les multimilliardaires, au nombre desquels comptent Trump et une partie de ses ministres. Voilà. Et ils ont dit, et alors je m'arrête là-dessus, puis on commentera, le titre de leur bouquin s'appelle « Prendre, mais pas entreprendre ». Alors je pèse les deux. Prendre, ça veut dire, c'est le capitalisme financier. j'ai une boîte, je rachète les concurrents les uns après les autres, je licencie la moitié du personnel une fois que j'ai racheté, etc. Et j'élimine les concurrents sur le marché. Ça, c'est prendre. C'est ce que fait le capitalisme financier. C'est son métier. C'est ce qu'il fait depuis maintenant d'un demi-siècle. Et c'est là-dessus que les États-Unis fonctionnent. Entreprendre, alors c'est un mot qui plaît. C'est-à-dire, l'entrepreneur, c'est le monsieur qui se soulève les manches, qui tous les matins dit « je vais au boulot », qui monte sa petite entreprise, qui grossit, etc., qui va y passer sa vie. Mais ça, ça n'existe presque plus aujourd'hui. C'est le régime de la start-up. Mais qu'est-ce qu'il arrive à la start-up ? Ben, quand elle a un peu grossi, essayé de trouver un produit intéressant, c'est celui qui prend qui va lui voler son produit. Et donc, entreprendre, ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est un vieux rêve qui remonte même à la fin du 19e siècle. Et l'entrepreneur, c'était un monsieur respectable. C'était le bourgeois qui s'était cassé la tête, qui s'était levé tôt tous les matins, qui avait trouvé un produit intéressant, qui avait sucé le sang de ses ouvriers au passage, bon, mais qui avait apporté quelque chose. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. La loi, et ça a été décrit, non pas par moi, ça a été décrit beaucoup mieux que moi, par Lénine, il y a de ça un siècle, qui a dit « mais le capitalisme financier, c'est ça ». C'est celui qui a l'argent qui fait travailler tous les autres. C'est ça. Donc on en reparlera la semaine prochaine dans le détail du rapport Oxfam. Rassurez-vous, les milliardaires sont pleins. Je crois qu'il y en a 10 dans le gouvernement de Trump. Et puis il y a ceux qui sont autour, qui étaient tous là hier, à commencer bien sûr par Elon Musk, parce qu'ils disent maintenant « envoyez la monnaie hein ». Maintenant, tu as fait ton cinéma, tu es là, tu as fait le camelot, tu as dit qu'on était les meilleurs. Et maintenant, on veut les sous. Et puis, il y en a même un qui a ajouté. Rien que. Alors, je fais écho à Christophe Oberlin, et ça me fend le cœur de le dire, mais enfin, rien que la reconstruction des hôpitaux à Gaza, c'est 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. Et il y a tout de suite des candidats. Qui s'intéresse à l'avenir de Gaza, l'avenir pas du Palestinien ? C'est l'Arabie Saoudite et c'est le Qatar. Parce qu'il dit, ouais. Hein, les 100 milliards, c'est nous qui les aurons. Voilà. Voilà ce qui se prépare.
Et surtout le Qatar.
Bien. Merci beaucoup, Roselyne. On se retrouvera mardi prochain.
Merci
volontiers.
Merci à tous nos auditeurs.
Merci, Habib, d'être là. Et bravo à la nouvelle table de montage. Et bravo aux finances de plus en plus.